Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Gilles Berset, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes professeur d'économie à Neoma Business School. Vous avez coécrit « Travail et changement technologique de la civilisation de l'usine à celle du numérique » chez Odile Jacob. François Eckhall, bonjour.
Bonjour.
Professeur fondateur de Fipeco.fr et professeur d'économie à Paris 1. Je vais vous poser la question tout à l'heure sur votre notion de la cote d'alerte de la dépense publique. Parce que... Léonidas Kalogiropoulos, bonjour.
Bonjour.
PDG de Médiation et Arguments, qui est une entreprise qui pratique le lobbying parlementaire, ce qui nous amènera justement à réagir à ces informations toutes neuves, là, qui sont sorties dans le Guardian et reprises par de nombreux journaux, notamment le journal Le Monde, concernant la manière dont Uber a organisé son lobbying lorsque le VTC a débarqué en France et que la guerre ouverte s'est installée entre ce nouveau monde et les taxis, notamment à Paris. Vous êtes vice-président d'éthique, vous êtes délégué général de l'Open Internet Project et vous avez fondé les Entrepreneurs pour la République, place de marché Internet, où on trouve des solutions concrètes d'entrepreneurs. Également, vous êtes l'auteur du manifeste des Entrepreneurs pour la République, la nation au service de l'intérêt général, publié aux éditions Ballant. J'ai fait cette chronique sur le pouvoir d'achat. L'idée d'Elisabeth Borne, c'est de dire, voilà, on va avoir quelque chose qui va correspondre au revenu des gens pour le gaz et l'électricité en janvier. Ça veut dire qu'en fait, ceux qui ont très peu d'argent, paieront moins. Et ceux qui ont un peu plus d'argent paieront plus. Je ne sais pas comment les choses vont s'organiser. Probablement, il vaut mieux un chèque énergie, tout simple, pour les moins riches. Et donc, je fais la chronique dès 6h25 sur BFM TV. Et puis là, souvent, des réactions sur Twitter. Mais là, j'en ai eu énormément. Énormément de réactions sur Twitter qui disent toutes la même chose. Je crois que je vais vous les lire exactement telles qu'elles ont été rédigées, d'ailleurs. Cette téléspectatrice m'écrit « Encore une fois, ce sont les classes moyennes qui vont raquer. Les classes moyennes vont bientôt se retrouver plus pauvres que les pauvres, entre les aides pour les uns et les impôts pour les autres. Soyons tous pauvres pour ne plus rien payer. Voilà le secret français. Une fois de plus, on valorise ceux qui bossent et on punit ceux qui ne bossent. On valorise ceux qui ne bossent pas et on punit ceux qui bossent. Quel champion, ce Le Maire. Appel à la classe moyenne. Démissionnez de votre boulot pour pas payer. Bon, faut plus travailler en France maintenant. À quoi ça sert de bosser pour l'interrogation ? C'est encore ceux qui bossent qui vont payer plein le cul de ces politiciens et de ces journalistes qui tapent toujours sur la classe moyenne en France. Il vaut mieux rester au lit que d'aller travailler. Pas étonnant qu'il y ait autant de chômeurs. Arrêtez les aides et tout le monde au boulot. Je crois que je vais arrêter de bosser, écrit celui-ci. Bon, je m'arrête là. C'est édifiant. Alors, si j'en reviens à l'actu, Elisabeth Borne nous dit qu'il y aurait des prix variables en fonction des revenus des gens. Ça me semble compliqué à mettre en place. Ça vous inspire quoi, Léonidas ? C'est des gens qui disent
d'abord, le prix variable par rapport aux revenus des gens.
Ça ou alors les réactions des gens ?
On pourrait le dire pour, je ne sais pas, quand on paye un PV, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un prix variable du PV en fonction de son revenu ?
Imaginez que la baguette de pain, en fonction des infos sur la carte bancaire, ne coûte pas le même prix.
Et ça ouvre finalement une espèce d'espace d'imaginaire où les gens se disent, finalement, face à tous les problèmes, je vais me tourner tous les matins vers l'État en disant, pour avoir un revenu, une compensation. Et la première réaction que ça suscite quand on demande sur le chèque énergie à 100 euros ou le chèque inflation à 100 euros ce que les Français en pensent instantanément, et finalement ils ont raison, ils disent mais avec 100 euros on fait quoi ? Donc de toute façon ce n'est jamais assez. C'est-à-dire qu'on nous a ouvert un espace dans lequel le droit de tirage est illimité, l'imagination est infinie, le temps et l'énergie que l'on va mettre à débattre de l'équation, de l'effet de seuil, qui va être au-dessus, qui va être au-dessous, qui va contrôler, c'est horrible. On est rentré dans quelque chose qui est horrible. Ce qui me semble surtout horrible, c'est qu'à la limite, dans des situations très particulières, comme ça a été le cas pour le Covid, il y ait une aide parce que c'est quelque chose qui est totalement dérogatoire du droit commun. Et donc là, on vient en support d'une situation exceptionnelle. Mais l'inflation fait partie de la vie de tout temps. Donc je crains que on ait ouvert un espace qui est capable d'entraîner notre pays dans un gouffre politique, parce que c'est sans limite qu'effectivement la nouvelle Assemblée va rivaliser d'imagination en la matière, et il n'y aura jamais quiconque de satisfait avec la solution sur laquelle on atterrira.
Donc c'est, mais là, c'est impressionnant de voir des gens qui doivent être...
Une machine à mécontentement intégral.
Qui doivent être, je ne sais pas, probablement 1,5 SMIC, 1,6 SMIC, qui considèrent qu'ils bossent pour les autres.
Ils ne sont jamais bénéficiaires de rien et faut effectivement contributeurs pour les autres.
Il n'y avait à ce jour que deux mesures totalement universelles qui profitaient à tous, y compris les très riches. C'était le bouclier tarifaire et la suppression de la redevance télé. Évidemment, le bouclier tarifaire, c'est fini. Et puis la redevance télé, ce sera supprimé une fois. Réaction de Gilles Berset. Soit à qu'est-ce qu'on fait en janvier 2023, soit à ça. Et je vous en ai cité que quelques-uns. J'en ai eu une bonne cinquantaine qui disaient la même chose.
Je suis à la fois en accord complet et en léger désaccord avec ce qui vient d'être dit. En accord complet, parce que face à un prélèvement de l'extérieur, une augmentation des prix de l'énergie, forcément, on va connaître, en France, comme dans les autres pays avancés, une baisse du pouvoir d'achat.
Oui.
Il y a un prélèvement.
Mais ça a commencé.
Baisse de pouvoir d'achat.
Ça a commencé. Bon.
Cette baisse de pouvoir d'achat va devoir être acceptée par l'ensemble
de l'existence.
Par l'ensemble des ménages. Et la compensation complète de cette baisse de pouvoir d'achat par l'État signifie qu'on la transmet simplement, qu'on en transmet le coût simplement aux générations à venir, ce qui est quand même pas quelque chose de très juste. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec la comparaison qui est faite avec le Covid, où là, un choc qui nous vient, bon, et c'est quelque chose de complètement différent. Néanmoins, sur les dispositifs d'aide aux ménages les plus pauvres, pourquoi y a-t-il une certaine légitimité ? Bien, tout simplement parce que cette hausse de l'inflation a comme source l'augmentation des prix de l'énergie. Or, dans le budget des ménages,
c'est énorme.
Et dans le budget des ménages,
et c'est
la part de l'énergie est plus importante pour les pauvres que pour les riches. Choc est vécu, correspond à un prélèvement qui en pourcentage est plus important pour les ménages pauvres que pour les ménages riches. Qu'à ce titre, une intervention de l'État soit faite et soit ciblée sur les ménages les plus pauvres n'est pas quelque chose d'aberrant, d'anormal, puisque ils subissent un choc.
Mais il faut savoir comment on le fait, Gilles Berset.
Alors comment on le fait ?
Alors après, est-ce qu'on fait un simple chèque énergie comme on sait déjà le faire pour 5 millions 800 000 ménages ?
La difficulté est énorme. Prenons les deux mesures très très importantes en France, bouclier tarifaire et la ristourne de 18 centimes sur le prix de l'essence. Oui. Les deux, vous voyez, correspondent à un coût bon an mal an en année pleine d'environ 35 milliards d'euros. Quelque chose de considérable.
On a oublié que c'était beaucoup d'argent.
Ouais, oui. Donc, c'est insupportable. C'est quelque chose qu'on lègue à nos enfants, nos petits-enfants, avec une prise de risque, parce que les marchés, à la fin, peuvent finir par s'inquiéter de cette augmentation de la dette de l'État français. Et puis, c'est quelque chose qui ne corrige pas la différence par laquelle les ménages subissent ce choc d'augmentation des prix de l'énergie. Donc, c'est pas ciblé alors que ça devrait l'être, d'une part, et deuxièmement, c'est très cher, et c'est insoutenable. Donc, il est tout à fait logique de la part de la Première ministre de dire, maintenant, on va réfléchir à des mesures plus ciblées sur les ménages les plus pauvres. Je voudrais juste dire que, sur le plan salarial, ce ciblage se fait spontanément. Se fait spontanément, puisque le SMIC augmente est indexé sur l'inflation et sur l'inflation que connaissent les 20% de ménages les plus pauvres. Il a glissé, il a connu une augmentation de 5,8% sur les 12 derniers mois. Peu de salariés.
Et ça va probablement se reproduire assez vite.
Et ça va se reproduire.
Car quand on a deux points d'inflation d'écart entre le dernier hausse de SMIC et le moment où nous parlons, il y a un mécanisme automatique. François Cal, j'ai un auditeur qui me dit que probablement faire des prix à la tête du client, c'est un peu quand même le message d'Elisabeth Borne, ce serait sans doute pas constitutionnel. Et en plus, il y a un moment où si on veut qu'il y ait des changements de comportement, il faut que le signal prix soit là. Donc comment vous voyez, là, je suis plus sur le mécanisme qu'il faudrait mettre en place en janvier.
Le mécanisme, il sera forcément très compliqué.
Alors, ça dépend,
on
le chèque énergie.
On peut le faire sur des... Mais je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, à savoir avec une carte bleue, pourrait faire ça, généraliser ça. Ça serait quand même affreusement compliqué. On peut le faire sur des produits bien ciblés, en effet. Pour revenir sur ce que disait Gilles Berset, on a un choc de pouvoir d'achat qui est très important et qui, est, en effet, pèse plus quand même sur les ménages modestes.
Donc, on est d'accord là-dessus.
Voilà,
y a pas
faire
de
quelque chose pour eux, il n'y a pas de problème, c'est normal. Et si c'est temporaire, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est si ce genre de mesures ciblées sur les ménages, quelle que soit leur forme, ciblées sur des ménages modestes, le problème, c'est si ça dure. Or, ça risque de durer. Parce que si ça dure, en effet, c'est d'ailleurs, finalement, ce que disent ceux qui ont envoyé des SMS, business. Pour les économistes, en fait, ça veut, c'est ce qu'ils appellent des trappes à pauvreté. C'est un sujet qu'on avait eu lorsqu'on a créé le RMI. On s'est aperçu au bout de quelques années que dès qu'on les gens avaient leur revenu qui augmentait de 100 euros, le mécanisme du RMI faisait qu'ils perdaient 100 euros. Donc, ils n'avaient aucun intérêt à sortir de la pauvreté, à trouver un travail, etc.
Alors, ça fait l'ampleur que ça a pris aujourd'hui.
Ça fait 20 ans qu'on essaye en fait de limiter ce genre d'effet. On a créé le RSA d'abord, qui permet d'avoir une sortie plus progressive, la prime d'activité, etc. Donc, on a mis en place plein de mécanismes assez compliqués qui visent à limiter ce genre d'effet. Mais là, avec ce type de mesures, on va les re-renforcer à nouveau. Donc, en effet, il ne faut pas aller trop loin. D'un côté, il faut en effet faire un peu plus de redistribution en faveur des plus modestes.
Un peu
parce
plus.
Que, un peu plus, parce qu'ils sont les plus touchés.
Ceux qui sont en train de travailler et qui disent « je vais arrêter de bosser », ils vont dire qu'ils considèrent qu'il y a beaucoup de redistribution
et en effet, mais il ne faut pas aller trop loin, parce qu'en effet, ça risque d'être très désincitatif. Et ceux qui sont en effet au milieu et qui ne sont pas aidés, à juste titre, pourraient se plaindre. Donc, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile.
Hein. Je précise qu'aujourd'hui, il existe un chèque énergie qui est déjà ancien, qui fonctionne très bien, qui est destiné à 5 800 000 ménages, qui était de 150 euros en 2021, qui avait été dopé de 100 euros supplémentaires au mois d'octobre, de manière à aider justement à payer cette facture énergétique. C'est un outil qui ne casse pas le signal prix et qui apporte un soutien pour ceux pour qui la facture est insoutenable. C'est, à mon avis, c'est ça le mécanisme.
Oui, je suis d'accord. Voilà. Hein, mais il faut mieux faire. Après, les choix entre les différents mécanismes, je préfère en effet.
Comme vous disiez tout à l'heure, si on subventionne en plus le gaz, le pétrole, on enrichit les pays producteurs qui n'ont aucun intérêt à baisser leurs prix, plutôt à les augmenter. On sait qu'une subvention se retrouve dans les prix, c'est valable dans la pierre comme c'est valable dans l'énergie.
Surtout qu'à un moment donné, c'est une question d'offre et de demande. Donc si on subventionne la demande, on ne va pas inverser.
La loi pouvoir d'achat, elle est inflationniste.
Donc elle alimente ce contre quoi on veut combattre. Donc c'est quand même.
Oui, mais celui qui touche, il a le sentiment que ça va mieux.
D'accord. Voilà. Maintenant, il me semble que devant l'ensemble de ces paramètres qui sont tous contradictoires, parce que je suis totalement d'accord, il ne s'agit pas de dire qu'il y a un problème et que la solution au problème étant compliquée, on ne va rien faire. Je ne suis pas en train de défendre l'idée que ceux qui subissent de plein fouet cette hausse des carburants, surtout lorsqu'ils sont loin de chez eux et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, devraient le prendre plein pot. Mais en revanche, il y a nécessairement un effort idéologique à faire, ou de doctrine. Il est temps que le gouvernement énonce la doctrine du moment où il intervient. Ça doit être totalement face à des situations exceptionnelles. Ça doit être totalement ciblé pour ceux qui en ont absolument besoin. Ça doit être absolument temporaire. Ça doit être absolument exceptionnel. C'est-à-dire que tous ces éléments-là, mis bout à bout, font que l'on doit restreindre le champ des imaginaires qui...
Des imaginaires.
Vraiment,
exactement.
Des imaginaires qui glissent vers l'idée que l'État est le garant, en dernier ressort, de tout. Oui. Des intempéries, des fluctuations économiques, des fluctuations sanitaires, de la perte d'emploi, des mécontentements, de la malbouffe, de tout. Il faut que ça s'arrête. Oui. Parce que c'est véritablement une pente extrêmement glissante et c'est devenu l'alpha et l'oméga de la totalité des débats qui alimentent les conversations de tous les Français.
Je suis d'accord,
c'est pour ça que je pense que c'est un espace imaginaire qu'il est temps de refermer rapidement.
Devant toutes ces histoires, juste une anecdote, parce que je suis régulièrement tous les matins avec BFM TV et quand on prépare l'idée de la chronique, ils me disent toujours bon, tu nous diras quand même ce que peut faire l'État.
C'est une maladie.
Que peut faire l'État.
Une maladie.
Mais regardez ce qui s'est passé depuis deux ans. Depuis deux ans, on a nationalisé les salaires pendant un an et on a fait plus 0,5 de pouvoir d'achat avec un moins 8 de PIB. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse après dans l'opinion ? Pour un milliard, t'as plus rien. Enfin, c'est Gilbert, après on avance.
Complètement d'accord sur le fait que les pouvoirs publics doivent vraiment faire passer le message que de toute façon, il y aura un sacrifice collectif.
Mais bien
accepter
sûr.
Une perte de pouvoir d'achat à accepter en moyenne. Pour financer ce prélèvement extérieur qui est plus important. Alors, juste pour ajouter encore à la complexité de la question. Imaginons que le bouclier tarifaire et les 18 centimes de ristourne à la pompe deviennent ciblés. Imaginons, hein, même si c'est pas simple, et je m'inscris complètement dans ce qu'a dit François tout à l'heure sur ce point-là. Dans ce cas-là, l'indice des prix ne sera pas abaissé de 2 points. Enfin, l'inflation ne sera pas abaissée de 2 points, parce que ça sera plus une mesure générale. Ça veut dire
quoi ? L'inflation augmentera.
L'inflation augmentera des 2 points, puisque pour l'instant, ces deux mesures abaissent l'inflation de 2 points de pourcentage. Si c'est plus abaissé de 2 points, Ça veut dire que le SMIC lui-même sera augmenté de 2 points supplémentaires,
oui,
d'une part,
oui,
et que les revendications salariales seront, je dirais, vivifiées pour ces 2 points. Donc vous voyez là, la complexité de la chose, le fait de cibler des dispositifs comme le bouclier tarifaire ou comme les 18 centimes, a des conséquences
sur le périmètre
positives directement sur les finances publiques, certes, mais malgré tout, d'autres conséquences négatives en termes de soutenabilité de la chose. Mais pour être encore plus clair que ce qui a été dit de façon très claire tout à l'heure, je dirais que le discours consistant à dire que l'État doit défendre le pouvoir d'achat et qu'il doit s'en donner les moyens est un discours totalement irresponsable dans la situation actuelle.
Et qui est sans fin et qui est une impasse pour ceux qui le défendent, parce qu'ils ne contenteront jamais les électeurs auxquels ils pensent faire plaisir.
J'ai regardé ce qui se passait dans les pays voisins. Personne n'est à 50 milliards sur un peu moins d'un an comme nous. On est quand même dans pas mal de pays sur des montants substantiels, hein, des 40, des 30 milliards d'euros. Voilà, il y a quand même plein de pays qui agissent sur le pouvoir d'achat. Enfin bon, ça a été l'un des... Oui, vous imaginez les revenus des gens sur la carte bancaire. Tu vas acheter ton pain, tu payes ta baguette 1,70€ et le gars d'après, il la paye 80 centimes parce que les informations... Ce serait dingo, ça.
Mais une autre mesure par rapport à laquelle on se dit, mais où est le bon sens? Le blocage des loyers.
Ah, c'est pas un blocage, hein. C'est un plafonnement.
J'entends bien. Bon. Mais certains
3,5% préconisent entre octobre 2022 et 2023.
Certains préconisent un blocage.
Ah, oui, LFI veut bloquer.
Ça ne pourrait avoir comme conséquence sur le moyen terme que de raréfier encore l'offre et d'aboutir
à l'effet inverse.
On est trop ancien dans ce métier. On sait bien que le politique ne voit que ce qui se voit et que ce que l'institution perçoit.
Ce qui se voit immédiatement. Oui.
Si j'interdis les licenciements, c'est bien, les gens seront plus au chômage. Oui, mais je raréfie l'embauche.
Absolument.
Je gèle les embauches. Si je plafonne les loyers, c'est bien, le gentil locataire va pas être matraqué par son propriétaire. Ouais. Mais je fabrique de la pénurie et très rapidement, je pénalise ceux que je suis censé aider. Bon, sur le pouvoir d'achat, mais on va pas le développer. Clément Beaune demande que les sociétés d'autoroutes fassent un geste commercial comme Total Energy. Il y a un petit problème avec cette histoire, c'est que les sociétés d'autoroutes, d'abord, pratiquent des tarifs qui sont totalement encadrés par les contrats de concession et qui demandent le feu vert du gouvernement. Elles n'ont pas vraiment la main sur ces prix. Et elles ne sont pas gagnantes de l'inflation, les sociétés d'autoroutes. Elles subissent aussi les coûts des matières premières, les pénuries de manœuvres qui font pression sur les salaires. Pas tellement comparer ça avec les milliards à foison de Total Energy liés simplement au prix du pétrole ou ceux de CMA-CGM liés simplement à l'envolée des prix du fret maritime. Clément Beaune ferait bien de s'occuper de la valse folle des étiquettes de la SNCF, peut-être plus que des sociétés d'autoroute. 2 minutes 40, on ouvre ce sujet. Je ne l'ai pas tellement expertisé, ce sujet. C'est ce qu'on va appeler les Uber Files. Ce sont des informations publiées à l'origine par le quotidien britannique Guardian, reprises par des quantités de journaux dont Le Monde. Toute une série de documents, 124 000 documents de la période 2013-2017, qui racontent par le menu comment Uber s'est emparé de l'ensemble de la guerre des VTC qui allait s'annoncer pour réussir à faire vivre ce secteur d'activité à côté des bons vieux taxis traditionnels qui, évidemment, ne le voyaient pas de... Alors, il y a plein de choses dans cette histoire, mais il y a notamment une mise en cause par le journal Le Monde d'Emmanuel Macron lorsqu'il était à Bercy. Le Monde parle d'un deal secret. Un deal secret, c'est ça le terme important, entre Uber et Emmanuel Macron. Le quotidien fait état de réunions dans le bureau du ministre, de nombreux échanges, des rendez-vous, des appels, des SMS entre les équipes d'Uber France et Emmanuel Macron. Et visiblement, l'un des points principaux aurait été le fait qu'on suggère à l'entreprise de rédiger et de présenter des amendements clés en main pour que les députés puissent s'en emparer et les glisser dans le texte de loi. Voilà, Monsieur Macron était naturellement amené à échanger avec de nombreuses entreprises sur ce sujet-là, réagit l'Élysée. Et ça crée tout un imaginaire de complot, de choses à la limite de la transparence, tandis que il est cohérent, à mon avis,
permettez que
une entreprise fasse du lobbying et qu'elle soit en relation avec le ministre sur un sujet comme celui-là, comme elle peut être en relation avec les parlementaires. Mais là, il y a une espèce de côté soupçonneux qui ressort des termes utilisés. C'est votre métier aujourd'hui, et depuis longtemps, Leonidas Kalogiropoulos, juste pour introduire en une minute, et on y revient après.
Écoutez, c'est quand même assez invraisemblable que il faut le remettre dans ces circonstances. C'était il y a 8 ans à peu près. Et c'est un sujet que l'on connaissait bien, puisque Uber est arrivé. Et qu'est-ce qui se passait avec Uber? Souvenez-vous-en, il y a eu un appel d'air d'emploi
qui étaient des emplois dans des quartiers où il n'y avait pas d'emploi. Et la première réaction très publique de Macron, c'était depuis quand, lorsqu'il y a des emplois qui sont créés là où il n'y en a pas, on va bloquer une source nouvelle d'emploi et d'embauche. Et il n'y avait rien de caché. Donc, il n'y avait d'autant moins rien de caché que tout ce débat avait lieu au moment où il y avait au Parlement ce que l'on a appelé le débat autour de la loi Macron. Et la loi Macron était une loi d'ouverture à la concurrence et d'ouverture des possibilités pour lutter contre les rentes. Donc, c'est en parfaite cohérence idéologique, tout ce que défendait Emmanuel Macron, que ce débat est arrivé. Et alors, il était convaincu. Depuis quand est-ce que lorsqu'un politique est convaincu d'une cause et qui fait en sorte qu'elle puisse prospérer, on appellerait ça du lobby, il fait juste son job, est-ce qu'il y a eu un seul euro d'échangé
là-dedans? Il
n'en est pas question. Donc, parler de lobbying pour un politique qui fait son boulot politique convaincu par une cause, c'est un abus de langage.
Voilà, et donc il y a la volonté, effectivement, de donner un parfum un peu sulfureux à quelque chose qui ressemble quand même à la vie normale d'une démocratie, parce que les amendements des groupes de lobby qui sont glissés dans les textes de loi, c'est pas illégal et c'est comme ça que ça se fait. Le groupe a courtisé les consommateurs et les conducteurs, peut-on lire. Il s'est trouvé des alliés au pouvoir, comme Emmanuel Macron, qui aurait discrètement, ce sont ces mots-là qui entretiennent un parfum nauséabond, qui aurait discrètement aidé le service quand il était ministre de l'économie. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, avant d'être ministre, avait participé à la commission Attali, et l'une des mesures phares de la commission Attali était de sortir enfin de ce numerus clausus des taxis à Paris et d'ouvrir le secteur à la concurrence.